De revoir bien du monde que j'ai connu, que j'ai aimé. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Pour moi, c'est une grande joie d'être ici et de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Que Dieu puisse, après ce bon temps d'adoration, qui prépare nos cœurs, que ça puisse être une bénédiction ce matin. Qu'on rencontre le Seigneur à travers les chants, à travers sa parole. Et Jeunesse aurait bien voulu être ici. Elle me disait « Salut-lui de ma part. » J'ai dit « J'oublierai pas. » Elle voulait être ici, mais c'est elle qui s'occupe de la célébration des chants au flambeau. Donc, on ne peut pas changer les dates. Alors, malheureusement. Je ne sais pas si vous connaissez Pierrot. Probablement pas. Dans une seconde. Pierrot. Petit garçon de 5 ans. Puis, il vient de frapper sa petite sœur qui a... quelques années, 2-3 ans. Puis maman le regarde, elle dit, « Pierrot, demande pardon. Demande pardon à ta petite sœur. Tu n'as pas d'affaire à la frapper. » Puis Pierrot est là, drette comme une barre. Il boude, regarde par terre. Bras croisés. Tout en lui dit, « J'avouerai pas. » On le regarde. Petit Pierrot. Puis c'est comique. 5 ans. Drette comme une barre. De la misère à avouer sa faute. Hein? Ça se peut-tu? Petit orgueilleux à cet âge-là. Ça commence jeune. Et ça ressemble quasiment à un péché mignon. Ça ressemble quasiment à un péché mignon. Tu sais, ça a l'air tellement banal. Mais jamais vous tourniez dans Ézéchiel, où on trouve le même péché, un petit peu moins mignon. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Alors, dans le contexte, il parle du roi de Tyr. Mais la plupart des théologiens, à cause des phrases utilisées, on voit derrière ce roi-là, et d'ailleurs, c'est la même chose dans Ésaïe, où... la description du roi qui est là pointe, à cause de la façon dont il s'est phrasé, pointe vers quelqu'un d'autre. C'est assez évident quand on va lire, vous allez voir. Et la plupart des théologiens voient derrière le roi de Tyr, ici, un autre personnage beaucoup plus lugubre, l'ennemi de nos âmes. Et j'aimerais que vous ayez ça à la pensée quand on va lire. Voyez-vous, notre petit péché mignon, j'aimerais qu'on réalise ce matin qu'on regarde 3 péchés dans l'Écriture et les dévastations qu'un seul péché peut faire. Afin que Dieu nous montre la gravité de n'importe quel péché et comment la croix est précieuse. Parce que tant que je ne vois pas la gravité du péché, j'ai de la misère à voir comment précieuse est la croix du calvaire. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, Ézéchiel, chapitre 28, hein, verset 12, on va commencer. « Fils d'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. » Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Et bon, c'est assez clair ici qu'il pointe, oui, vers le roi de Tyr pour présenter l'orgueil du roi de Tyr. Mais on voit clairement, à travers les expressions utilisées, qu'il pointe vers le chérubin déchu. Satan lui-même, Lucifer, me semble, dans le texte, qu'on peut tirer cette conclusion-là. Voyez-vous, avant la création de ce monde matériel, il y a eu la création de tous les êtres célestes. On n'était pas là. Et il y avait toutes sortes de hiérarchies célestes, hein? Une obéissance parfaite à tous les niveaux. Une louange parfaite. J'aimerais juste méditer une seconde qu'il n'y a pas une place dans le monde parfait où il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de place dans le monde parfait où il n'y a pas d'autorité. Le Fils est soumis au Père. Le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils. Les archanges, les anges, il y a toutes sortes de hiérarchies dans le monde spirituel des anges. Et Dieu avait établi une hiérarchie aussi dans le monde ici-bas. Partout où il y a la perfection, il y a de l'autorité. Petite méditation en passant. Et ici, ça nous décrit comment était un des plus beaux anges. On ne sait pas si c'était le plus grand, probablement. On n'est pas sûr, là. Mais il était grand. Il était magnifique. La description qui est faite ici est absolument extraordinaire, hein? Chérubin, protecteur, aile déployée. Il était sur la montagne. Il se promenait au milieu des pierres ardentes, etc. Une description absolument extraordinaire de cet être spirituel. Et c'est le Fils qui avait créé ce chérubin splendide. Maintenant, tout était parfait dans le monde spirituel. Harmonie, paix, joie. Si tu avais été au ciel à cette époque-là, tu aurais entendu les louanges adressées à Dieu. Et tu aurais été béni. Mais il y a le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. On voit le roi tirer ici en arrière, mais on voit aussi cet ennemi de nos heures. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Il s'est passé quelque chose dans l'éternité passée. Dans cet être spirituel, il a commencé à se regarder. Il est pas mal beau. Hein? Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Il a vu ses qualités, où Dieu l'avait placé dans les sphères spirituelles. Puis il s'est dit, waouh. Dans Ésaïe, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Imaginez, Dieu l'avait placé, un chérubin, un être spirituel avec une grande autorité. Mais il s'est dit, passez, j'en veux encore plus. Je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil est rentré dans son cœur. C'est passé. Une pensée d'orgueil dans le cœur. Peut-être lorsqu'il a vu les anges adorer le Fils dans toute sa gloire, qu'il a voulu prendre la place du Fils, on ne sait pas trop. Peut-être quand il a remarqué sa supériorité sur tous les autres êtres célestes, puis il s'est dit, j'en veux plus. Mais ça a pris quelques secondes. Une pensée. Un désir orgueilleux. Rien n'était visible. C'est sûr. C'est un esprit. Tout ça, c'était dans l'invisible. Une pensée orgueilleuse dans l'invisible. Et la plus grande, la plus longue guerre cosmique a été déclenchée à cause de ce seul péché. Darth Vader n'est rien à comparer à ce qui est décrit dans ce texte-là. Une révolte contre l'Éternel, le Très-Haut. Un seul péché et une guerre cosmique se déclenche. Tournez dans Apocalypse 12, 4. Apocalypse 12, 4. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel. Il fut jeté sur la terre. On parle du dragon ici, qui entraîne le tiers des étoiles. Plusieurs auteurs croient ici que c'est une description. C'est clair que le dragon ici, c'est Satan. Et que le tiers des astres, ce sont tous les anges déchus. Imaginez-vous, en quelques, on ne sait pas exactement combien de temps, en quelques temps, Satan a entraîné, à cause de sa pensée orgueilleuse, à cause de son péché d'orgueil, le tiers des astres spirituels, des anges avec lui, à sa suite. Le tiers du ciel est déchiré. Les anges vont être entraînés par son péché. Tiers d'entre eux. C'est grave. Un seul péché vient séparer le ciel. Des millions d'êtres spirituels entraînés dans la méchanceté par un acte d'orgueil qui a poussé à la rébellion. Quelle désolation pour l'univers spirituel que Jésus avait créé. Maintenant, la méchanceté, le mensonge, la mort pénétrait dans les sphères spirituelles. On parle ici de la mort spirituelle. Quelle tristesse pour le Créateur de voir cet univers qu'il avait créé, cet univers spirituel, déchiré pour l'éternité. Un seul péché a entraîné tout cela. C'est quelque chose. Sans possibilité de repentance pour aucun de ces démons-là. Sans possibilité de repentance pour aucun de ces démons-là. Perdu pour l'éternité, séparé de Dieu. Quelque chose. Tu te rappelles de Pierrot? Avec son petit orgueil. Un péché qui semblait mignon. Mais c'est de la même source. C'est la même source, frères et sœurs. Je vais prendre un deuxième exemple. Les parents de Pierrot gardent des biscuits au chocolat dans le garde-manger. Papa et maman lui ont dit qu'il est défendu d'en prendre en dehors des repas et des collations. Pierrot, il paraît. Puis, que voit-on sur son visage? Une marque de chocolat sur la joue. Maman, regarde. Où t'es allé, Pierrot? Pierrot, il dit rien. As-tu pris le chocolat que je t'avais défendu de prendre? Non. Il est tout beurré. Péché mignon. Ça n'a pas l'air plus grave que ça, hein? Mais vous voyez le parallèle que je veux faire? Hein? Adam et Ève. On connaît le texte. Dieu avait dit de ne pas toucher l'arbre, de ne pas manger le fruit, c'est-à-dire. Ça semblait banal. Un petit commandement. Une petite désobéissance. Pas plus que Pierrot avec son biscuit au chocolat. Mais c'est la même origine. Hein? C'est la même source. Un seul péché d'envie a apporté le chaos sur la terre. Pensez-y une seconde. Un seul péché a apporté le chaos dans l'univers spirituel. Un seul péché a apporté le chaos sur la terre entière. C'est terrible quand on y songe. Hein? Dans le psaume 8:6, en parlant d'Adam et Ève, il dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble et même les bêtes des champs. » Ça décrit l'autorité qu'Adam et Ève avaient reçue sur toute la création. Et toute cette création-là fonctionnait en harmonie. C'était magnifique. Pensez-y une seconde, peux-tu avoir mieux? Hein? Tu avais les milliards de galaxies, hein, à admirer. Tu avais la Terre, une merveille, une belle boule bleue. Les autres, ils ne la voyaient pas encore. Mais nous autres, on la sait, hein? Hein, vous savez, ils essaient de trouver des exoplanètes. Il y en a 510 dernièrement. Ils ont peut-être découvert une couple d'autres encore. Mais la vie, elle ne peut pas vivre là-dessus. La planète Terre est une merveille. Dieu l'avait créée. Hein? Et les animaux, toutes sortes d'animaux différents. La perfection. L'être humain possédait cet univers matériel. Il était roi de l'univers, placé comme régent par Dieu, co-régent. Hein? L'être humain possédait la compagne idéale, Ève, hein, quand il l'a vue. Ouch! Voici, tout de suite. L'être humain avait un environnement parfait, un jardin de luxe planté par Dieu, des animaux à connaître et à se réjouir avec eux. Imagine-toi quand les animaux sont arrivés vers Adam, là, puis il fallait qu'il leur donne un nom. Hein? Quand tu as vu les chimpanzés, j'aurais aimé voir quel nom il nous a donné. Toutes sortes d'animaux, l'hippopotame. Hein, il devait flatter un petit peu, puis il dit, bon, toi, hein, il devait donner un nom. C'est la perfection, l'harmonie. Moi, j'aime bien les animaux. Les animaux, en général, m'aiment aussi. Parce que je les aime. Mais j'arrêtais bien, là, moi. Hein, qu'est-ce que tu veux de plus? Des fleuves qui irriguent le jardin. Hein? Les oiseaux qui viennent vers l'homme. Imagine-toi. Avant le déluge, là, les animaux n'avaient pas peur de l'homme. D'après Genèse. Alors, les animaux venaient, là, puis... Oh! Il y en a-t-il qui sont vétérinaires, ici? Hein? Tu dois être heureux. Imagine-toi quand le lion est arrivé dans le jardin avec, waouh, sa couronne, puis qu'il a commencé à le flatter. Je ne suis pas en train de rêver, là. Tu as peut-être déjà vu le documentaire où il y avait une femme qui avait nourri un petit lionceau pendant qu'il était jeune, puis là, finalement, elle est obligée de le laisser aller avant qu'il la dévore. Puis, il est dans un zoo. Et là, ça fait plusieurs années qu'elle ne l'a pas vu. Puis, elle dit, je vais aller le voir. Elle s'approche. La cage où le lion est. Et là, tu la vois s'approcher. Devant la cage est ici, là. Puis, le lion, tu es là, tu regardes. Le lion se lève. Puis, elle apprend. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ça, tu te dis... Il l'embrasse, puis là, c'est les étreintes amoureuses en fin de la peau. Quelle beauté! Tu regardes ça, tu as le goût de pleurer. C'est magnifique! Ça, c'est ce qu'on avait! C'est ce qu'on avait, frères et sœurs. Avec le péché, rentre dans la création. L'être humain avait un travail intéressant. C'est quoi le premier métier du monde? C'est pas... Le premier métier du monde, la prostitution. C'est pas ça, désolé. Ah, OK. Je ne le connaissais pas. Mais le premier métier du monde, c'est quoi? C'est jardinier. Ah oui. Moi, j'aime les animaux, mais pas tellement les plantes. Mais imaginez-vous, on s'en va en vacances, où est-ce qu'on va aller? Hein? Où il fait chaud? On va aller visiter en couple, hein? Ah, oh, puis là, c'est fantastique. Hein? On rêve sur une semaine, deux semaines ensemble, en amoureux. C'est merveilleux. Il y avait ça dans le jardin, tout le temps, gratis. Hein? L'être humain avait tout. L'être humain avait tout. Mais il en voulait plus encore. C'était pas assez. C'était pas assez. Incroyable. Elle s'est mise à regarder le fruit. Elle a cru les paroles de l'ennemi. Ça la rendrait semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Et elle s'est tournée, puis elle en donnait à son mari. Puis lui, il n'a pas été séduit. Volontairement, volontairement, il a décidé de désobéir à son Créateur. Apple, là, la compagnie. Le sigle de la compagnie, vous vous souvenez? Il y a une couple d'années en arrière. Il y avait une pomme. Puis, petite bouchée. Banal. Banal, tu me diras. Il n'y a rien là. Frères et sœurs, le chaos dans l'univers physique maintenant. Un seul péché. Une seule faute. Le chaos, ça commence, hein? L'être humain a pénétré la sphère du péché. La race humaine est devenue souillée. Toute la descendance d'Adam et Ève devient souillée. Les deux frères s'entretuent. Ça ne prend pas de temps au péché de se propager. Caïn, Abel. Quand il tue son propre frère, première génération, la souillure, le péché a pénétré toutes les relations interpersonnelles, verticales, horizontales, avec les animaux. L'univers entier est affecté. Il dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. Et dans Romains 8, il y a une affirmation absolument époustouflante. Il dit là, Romains 8, 22, ça vaut la peine de tourner. Si vous voulez. Romains 8, 22. Car nous savons, je vous lis dans la version Darby, car nous savons que toute la création soupire ensemble et est en travail jusqu'à maintenant. Toute la création soupire. Elle est en travail. La création est enceinte. Tout le monde crie, gémit et souffre encore maintenant comme la femme qui accouche. Les douleurs. Paul compare la création tout entière à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de celui qui l'y a soumis. Haïti, avec son tremblement de terre, c'est le résultat de ce péché-là. La loi de la jungle entre les animaux vient de là. J'ai écouté un documentaire dernièrement où les lions dévoraient vivants les animaux, où les babouins dévoraient vivants une gazelle. Ouh! Tu regardes ça, là, puis un seul péché a entraîné tout ça. Voyez-vous, frères et sœurs, souvent on va avoir un problème avec l'enfer. On se dit, mon ami, il me semble que c'est sévère comme punition. C'est à cause de notre vision du péché. Si je vois le péché comme Dieu le voit, je vais reconnaître que la sentence de l'enfer n'est pas exagéré. Dans Genèse 6, pensez-y une seconde. Est-ce que tu te sens tout seul des fois comme chrétien à ton travail? Comme jeune? Tu n'as pas rapport? Hein? Quoi? Pas de relation sexuelle avant le mariage? Ils n'ont quoi rien à dire ça, hein? Tu fous? Tu es tombé sur la tête? Peut-être que tu te sens pas rapport pantoute, hein? Pas rapport pantoute. Je connais une famille qui se sentait comme ça. Noé. T'imagines une seconde? Noé, avec sa famille, ils étaient les seuls sur la terre à adorer Dieu et partout autour, c'était la violence et le péché. Tu te sens tout seul un petit peu? Construit pendant 100 ans un bateau, l'arche. Tu te sens tout seul un petit peu? Les gens qui le regardent me disent, Noé, ça va? Certain? Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait? T'sais? Ça n'a aucun rapport. Voyons, come on! Viens, d'après ton siècle! La modernité! Hein, tu lis les journaux, hein? Dernièrement, dans la presse, tu sais. Nous, on est à l'ère moderne! C'est comme ça en disant, à l'ère moderne, tout ce qui est ancien, c'est à rejeter. L'orgueil. Mais cette terre, complètement en révolte contre Dieu, est venue du péché d'Adam et Ève. Toute l'humanité complètement corrompue, et Dieu est obligé d'envoyer un déluge sur toute la terre entière pour éliminer le mal. Et le cœur de Dieu est attristé. Que c'est? Un lys, hein? Une orchidée. Un lys. Vous débattrez ça ensemble. Il me semble que c'est un lys, mais en tout cas, il est un petit peu magané parce qu'il... C'est donc de la refaire maintenant. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Ça détruit. Tout autour. Un seul péché. Je sais que j'ai 45 minutes jusqu'à quelle heure? Et 15? Et 40? Oh! Vous êtes spirituel? Ça paraît si innocent, mais ça détruit. Un seul péché a entraîné l'univers entier spirituel dans la corruption, la division, le mal. Un seul péché a entraîné la terre entière, l'univers physique, pas simplement les humains, les animaux. Tout l'univers qui souffre les douleurs de l'enfantement. Et j'aimerais regarder un dernier péché. Tellement frappant. Tournez dans Marc 15, 10, s'il vous plaît. Ça ne paraît pas évident quand on lit. Pilate offre de libérer Jésus, et le texte dit, « Car Pilate savait que c'était par jalousie que les principaux prêtres, le Sanhédrin, avaient livré Jésus. Derrière toutes les actions abominables du conseil juif, le Sanhédrin, la Cour suprême d'Israël, derrière toutes ces œuvres abominables qu'on va voir, que je vais décrire tantôt, se trouve un péché. D'après ce texte. Quel est ce péché? L'envie, la jalousie. Pensez-y une seconde. C'est la jalousie qui les a poussés à tout faire pour livrer Jésus sur la croix. À quel point la jalousie peut être un péché abominable? Derrière tout leur semblant de piété, ils s'offusquent qu'à leurs yeux, Jésus ne suit pas le sabbat. Ils s'offusquent qu'ils parlent avec les pécheurs, qu'ils ne suivent pas les règles pour la purification, pour les repas. Derrière la multitude de leurs actions mauvaises, convoque en pleine nuit le Sanhédrin. Accepte des faux témoins. Imaginez-vous, des hommes pieux, là. Des hommes qui lisent la parole de Dieu constamment. Accepte des faux témoins. Cherche un sujet de condamnation et n'en trouve pas. Il faut le condamner. Lui crache au visage devant le Sanhédrin. Le frappe. L'accuse devant Pilate. Soulève la foule. Criez, crucifie-le, crucifie-le! Pourchasse leur victime jusqu'au pied de la croix, comme des loups cruels. Derrière tout ça, des actions abominables se cachent la jalousie. La définition de la jalousie, c'est un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder exclusivement. Quel avantage les dirigeants désiraient-ils posséder exclusivement et dont ils ne possédaient plus l'exclusivité? Jésus dit, scribes et pharisiens qui font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Avant que Jésus arrive, hein, c'était comme le Québec dans les années 50-60, lorsque le prêtre, avec son bréviaire, les jeunes ne me suivent pas, mais je m'adresse aux plus vieux. Là. Puis là, toute la populace, toute la population admirait ce prêtre qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y avait vraiment un statut reconnu, spécial. C'est incroyable. C'est exactement la même chose à l'époque du Nouveau Testament. Et là, qui vient mettre du trouble dans la patente? Qui possède depuis 3 ans l'admiration du peuple? C'est Jésus de Nazareth. Hein? Nazareth. Petit village. Et ils n'aiment pas ça. Mais tout ça est caché derrière une piété, puis un standard. Hey, pas n'importe qui, moi. Mais derrière ça, il y a de la jalousie. Et quand Jésus vient les reprendre publiquement, puis lui pose, les autres arrivent avec leurs questions, puis il répond, on bouchait bien raide. Puis là, Jésus pose une colle. Personne n'est capable de répondre. Là, il va payer de sa vie, mon écœurant. Tu ne m'humilies pas comme ça en public. Tu ne m'humilieras pas comme ça en public! Et là, c'est déterminé dans leur cœur. Il va mourir, l'espèce. Mais derrière leur péché, tout ce qu'ils ont commis de mal, se trouve la jalousie. Hein, Pierrot? Sa petite sœur vient de naître. Puis là, elle a toute l'attention. Et Pierrot n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait, Pierrot? Il brasse sa petite sœur. Il est jaloux. Hey, c'est moi qui avais l'attention, là. T'es venu me voler ça. Tu vas payer. Voyez-vous? Comment? Ça semble si banal. Mais tout est là, dans nos enfants. Toute la nature déchue de l'univers se trouve même dans nos enfants. de 5 ans. Parce que les trois exemples que j'ai donnés de Pierrot, c'est des choses que peut-être que vous avez vécues, tout simplement. Hein? Des choses banales. Mais le péché, frères et sœurs, n'est jamais banal. N'importe quel péché n'est jamais banal. Est-ce que je suis convaincu que je ne peux pas mettre mignon à côté de péché? Ce matin? Je ne peux pas mettre le terme mignon à côté du mot péché. C'est une contradiction totale. Est-ce que je suis convaincu de la gravité incalculable de chaque péché? Quand on voit tout ce que la possibilité qu'un péché peut faire. Le péché, c'est comme une réaction nucléaire. Lorsqu'elle commence, tu perds le contrôle. Tu sais, le péché que tu te permets, sans que personne ne sache. Tu es en train de mettre en action une réaction nucléaire. Il va avoir des conséquences. Parce que le péché est détestable. Ça peut nous donner de la haine contre le péché. Lorsque je me repens d'un péché, lorsque je réalise à quel point les conséquences graves de mon péché affectent tout autour, Dieu, les humains, hein, les deux commandements, aime Dieu, aime ton prochain. Lorsque je réalise à quel point mon péché peut et affecte. Oh, je me souviens encore dans mon couple. Combien j'avais blessé Janice à mon irritation. Marie, ne vous aigrissez pas contre votre épouse. Un seul péché. Dans 1 Pierre 3, il dit que la femme est un vase fragile. Monsieur, la Bible me dit et te dit, ne t'aigris pas contre ton épouse. Tu vas la détruire. Tu vas la détruire. Oh, elle est capable d'endurer pas mal. Tu penses ça, hein? Pierre dit le contraire. Peut-être que tu es une femme, puis tu dis moins être fragile, Richard, come on. Ouais, t'es au 21e siècle, là, quand même. Là. On est moderne. Mais je pourrais te donner 5 à 10 exemples que je connais, que j'ai rencontré dans le ministère, de femmes qui pensaient qu'il n'y avait pas de fragilité, puis qui ont enduré un mari irresponsable qui ne prend pas son leadership dans son foyer. Et elle ne lui a jamais donné, là, deux côtés de médaille. Hein. Mais après 20 ans de ce régime-là, plus capable! Parle-lui pas de son mari. Me soumettre à mon mari! La parole de Dieu, c'est la vérité. Si tu passes à côté, il va avoir des conséquences à ton péché. Sois certain de ça. Je suis assez vieux maintenant pour dire que la Bible dit vrai dans mon expérience. Il va avoir des conséquences horribles. Ce qui te semble tellement banal. Hein? Cette belle fille que tu vois sur ton iPod, sur Internet. Messieurs, ce péché d'impureté sexuelle, de saleté profonde. Tu te dis, cachette. Pas avoir trop de conséquences, quand même. Eh, mon ami. Va chercher de l'aide. Rends-toi redevable. Arrête Va chercher de l'aide. Demande à quelqu'un à qui tu vas être redevable. Va voir la profondeur de ton péché. Demande à Dieu. Parce que souvent, je sais, je l'ai eu dans ma vie, ce péché-là. Mon arrière-plan familial, c'est une pornographie par-dessus la tête. Et Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Il y a moyen d'être libéré. Mais il faut que tu creuses. Qu'est-ce que tu vas chercher derrière ça? Voyez-vous, la gravité du péché nous amène à réaliser combien la croix du calvaire est précieuse. Tantôt, quand on chantait le chant, quand il a lu le texte dans l'Apocalypse, imagine-toi, on va retrouver le jardin. Il va y avoir l'arbre de vie. Il va y avoir un fleuve. Dans une ville, ça, c'est l'humour de Dieu. Racheter la ville. On commence par un jardin, puis on va terminer dans une ville. Ça, c'est l'humour de Dieu. Quel grand Dieu! Et on va retrouver là la présence de Dieu. Christ est venu nous racheter. Christ est venu nous libérer du péché. La croix, la puissance de te libérer de ce péché-là, le crois-tu? Ou tu dis, c'est normal. C'est normal un chrétien qui pêche. C'est pas normal un chrétien qui continue à pêcher. C'est pas normal. Tu crois un mensonge si tu crois ça. Oui, mais il y en a d'autres qui pêchent, Richard. Oui, oui. C'est ça ton standard? Qu'est-ce que les autres vivent? Ou ton standard, c'est qu'est-ce que Dieu dit? La parole de Dieu? Dieu dit qu'il peut te donner la victoire sur le péché. Le crois-tu avec ton cœur? Demande à Dieu la victoire. Jeûne pour la victoire. Dieu va te la donner. Oui, mais Richard, ça n'a pas grand conséquence quand même. Tu exagères, là. Je pense à mon neveu. Il semble rien faire de grave. Il est juste indifférent. Je pense qu'il est chrétien, je ne suis pas sûr. Probablement qu'il est chrétien. Il ne va pas à l'église. Une belle femme, beau travail. Richard, je ne fais rien de mal. Là, je l'ai confronté. Tu es chrétien, tu ne vas pas à l'église, il me semble, hébreu. J'ai lu hébreu, 10-25. Oh! Hein? Une de mes filles s'est éloignée du Seigneur. Elle m'a dit, « Papa, elle dit, je suis fatiguée de lutter. » Je regarde mes cousins et cousines. Elle dit, « Je vais faire comme mon cousin. » Frères et sœurs, s'ils avaient vu toutes les conséquences de sa désobéissance, à un péché. Hein, il y a deux sortes de péchés. Le péché de commission, tu commets un péché, le péché d'omission. Et les péchés d'omission nous semblent tellement banals. Mais je regarde aujourd'hui les conséquences extrêmes dans la vie de ceux qui l'ont regardé vivre et qui ils sont justifiés. Hein? Il n'y a aucune justification là pour ma fille de dire ça. Mais néanmoins, il y avait une conséquence, là. Mon frère, ma sœur, demande à Dieu de te libérer de ce péché qui te semble incapable, que tu sembles incapable de vaincre. Prions Dieu. Seigneur, je suis persuadé qu'il y en a dans cette salle qui lutte avec la pensée du suicide. Il y en a probablement des dizaines, Seigneur, qui luttent avec l'impureté de la pornographie, Il y en a qui luttent avec la jalousie, Seigneur, qui a entraîné notre bien-aimé dans la mort. Père céleste, il y en a qui ne sont plus capables dans leur mariage. Ils ne sont plus capables de pardonner, Seigneur. Oh Dieu, toi qui es venu nous libérer de nos péchés, Seigneur Jésus, montre-nous, Seigneur, la gravité de chaque péché. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Oh Seigneur, fais pénétrer ta parole dans nos cœurs. Libère-nous des mensonges, Seigneur, qui contredisent ta parole. Oh Dieu, montre-nous la croix du calvaire. Où tu t'es livré, Seigneur. Tu as payé. Tu nous demandes la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que tu crois ce matin? C'est un péché qui est impardonnable. Dieu ne peut pas te pardonner ça. Mensonge. Refuse cette pensée. Refuse-la maintenant. Peut-être ce matin, il y en a qui n'arrivent pas à se pardonner. Tu as fait des gaffes. Ça a détruit tout autour. Tu vois à quel point le péché détruit tout autour. Tu l'as vu. Et tu t'affliges constamment. Tu écoutes l'ennemi, l'accusateur des frères qui t'accuse devant le trône jour et nuit. Refuse son accusation. Sors de son accusation. Tiens-toi debout avec ta robe blanche, déclarée juste par la Cour suprême. Relève-toi et marche. Va et ne pêche plus. Seigneur, je veux te prier pour l'équipe de célébration, de louange. Seigneur, ils amènent ton Église dans ta présence. Oh Seigneur, donne-leur la pureté dans toutes leurs pensées, la délivrance, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour les anciens de l'Église. Tu dis que tu vas nous juger plus sévèrement. Nous, les anciens. Et c'est vrai que tu le fais, Seigneur. Tu es juste. Garde-les, Seigneur. Garde Yannick, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, pendant ce temps de repos avec sa bien-aimée et ses enfants. Oh, Seigneur, bénis cette Église. Merci pour cette Église, Seigneur. Merci pour ce témoignage vivant. Merci pour ce bâtiment, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Ta grâce, malgré nos fautes. Merci au nom précieux de Jésus. En ton nom, Jésus. Amen.